Frères et sœurs, vous avez entendu ce passage d'évangile. Ça se situe dans une région qui est entre la Samarie et Israël. Et donc, il y a 10 lépreux. Vous avez entendu dire que Jésus faisait des guérisons. Et donc, 10 lépreux qui viennent voir Jésus. Et Jésus les renvoie, dit « Allez voir le prêtre ». En fait, il leur demande simplement d'obéir à la loi de Moïse. Enfin, à la Torah, et en cours de route, ils sont purifiés, guéris, et un seul revient vers Jésus pour rendre grâce à Jésus et pour glorifier Dieu. Et c'est un Samaritain, un étranger. Et donc, cet homme se prosterne devant Jésus, et vous l'avez entendu, Jésus dit « Relève-toi, ta foi t'a sauvé ». Il ne dit pas « Ta foi t'a guéri ». Ta foi t'a sauvé. C'est important pour nous de comprendre que toutes ces guérisons, vous savez, dans l'Évangile, on voit que Jésus, surtout au début de son ministère, après, de moins en moins, mais au début, il fait pas mal de guérisons. Et ces guérisons, ce sont des signes. Ce n'est pas un but en soi. C'est le signe, bien sûr, que Dieu n'est pas indifférent à nos souffrances. Ce sont des signes missionniques, messianiques. Les guérisons, les délivrances, parce que dans l'Écriture, il était dit que le Messie allait faire des guérisons. C'est le signe de la puissance de Dieu. C'est une guérison visible, corporelle, mais qui est le signe d'une guérison invisible. Jésus vient pardonner les péchés. Et tout ça s'inscrit dans la pédagogie de Jésus. Vous avez remarqué que souvent, quand Jésus fait des guérisons, il fait le lien avec la foi. Ta foi t'a sauvé. Crois-tu que je puisse te guérir? En fait, Jésus nous fait comprendre qu'il peut intervenir dans nos vies, et avec puissance, dans la mesure de notre foi. Et donc, c'est la foi qui permet d'accueillir cette action de Dieu dans nos vies, et c'est la foi qui permet d'être sauvé, parce qu'encore une fois, le but, c'est pas simplement d'être guéri, mais c'est d'être sauvé. Alors, aujourd'hui, en 2025, Jésus continue à guérir par la médiation de son Église. Il y a des guérisons aujourd'hui. D'ailleurs, je suis en train de terminer des orientations sur cette question. Et c'est bien, il faut y croire. Il faut accueillir ces guérisons, il faut rendre grâce. Mais attention, il faut aussi, il ne faut pas en rester au visible, il ne faut pas en rester au côté un peu spectaculaire des guérisons. Et il ne faudrait surtout pas faire de Jésus un guérisseur, ou en tout cas l'enfermer dans un rôle de guérisseur, comme si Dieu c'était celui qui finalement venait régler tous nos problèmes. Or, si vous regardez l'Évangile, vous voyez que Jésus n'a jamais promis de guérir tous les malades. En revanche, il est venu pour sauver tous les hommes. Et donc, pour nous qui sommes là ce matin, la question, c'est de voir comment Dieu agit dans ma vie. Et même si, j'imagine, la plupart d'entre nous, nous n'avons pas forcément fait l'expérience d'une guérison miraculeuse, comment le Seigneur agit dans ma vie? Et vous voyez, ce qui est beau, je disais tout à l'heure qu'on a la chance d'avoir beaucoup de catéchumènes. Ce qui est beau, moi, quand je lis les lettres des catéchumènes, on voit comment Dieu agit dans le cœur de personne, même avant qu'elle soit baptisée. Certains disent, j'ai fait l'expérience d'une paix profonde, Dieu m'a donné la paix du cœur, j'ai fait l'expérience de l'amour de Dieu, Dieu m'a délivré de telle ou telle addiction. Donc Jésus est vraiment présent dans nos vies. Et nous, qui sommes pour la plupart peut-être des vieux chrétiens habitués, si j'ose dire, c'est très important de prendre conscience, de voir comment Dieu est présent dans nos vies, comment il agit. D'ailleurs, si j'insiste pour que soient mises en place des fraternités, fraternités catéchuménales ou fraternités missionnaires, un des buts de ces fraternités, c'est justement qu'on apprenne à repérer comment Dieu est présent dans ma vie, comment il vient me consoler, comment il vient me délivrer, m'éclairer, m'apaiser, me pardonner les péchés. Mais c'est énorme, on est habitué, mais Dieu me pardonne mes péchés, il me réconcilie avec Dieu. Il faut que nous soyons capables de reconnaître tout ça. Et donc peut-être c'est bien de se demander aujourd'hui, bah, au fond, est-ce que je vois ce que Dieu fait dans ma vie? Et à ce moment-là, pour faire le parallèle avec les 10 lépreux, est-ce que je considère que c'est normal? Ou est-ce que je reviens vers Jésus, plein de gratitude, pour lui dire merci, pour lui rendre grâce, pour glorifier Dieu? Est-ce que je suis dans la louange? Alors vous me direz, cela dit, nous faisons tous l'expérience que parfois nous sommes dans l'épreuve et nous prions et nous demandons à Dieu de faire quelque chose et on a l'impression qu'il ne répond pas. On a l'impression que Dieu nous a oubliés. Alors c'est là qu'il faut, relire la deuxième lecture que nous avons entendue, où Saint Paul, et Saint Paul, on ne peut pas dire qu'il manquait de foi, Saint Paul il dit, j'endure la souffrance. Donc vous voyez, Jésus, ce n'est pas un coach en bien-être. Jésus n'a jamais dit à ses disciples, les épreuves, c'est pour les autres. Vous, si vous me suivez, si vous avez la foi, vous n'aurez pas de maladie, pas de chômage, pas d'accident, pas... Non. Jésus n'a jamais dit ça. En revanche, ces épreuves vont être un lieu où notre foi va être éprouvée. Puisque ce qui nous sauve, encore une fois, ce n'est pas la santé, c'est la foi. Et donc notre foi, elle a besoin de grandir. Les épreuves vont éprouver notre foi. Et c'est pourquoi Saint Paul écrit, « Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. » Donc elles permettent de grandir dans la foi. Et Saint Paul ajoute, « Je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu'ils obtiennent le salut et la vie éternelle. » Alors, ce n'est pas nous qui sauvons, c'est Jésus qui sauve. Il ne faut pas qu'on se prenne pour le sauveur du monde. Mais Jésus nous permet de nous associer à cette œuvre de salut. Vous voyez, c'est important de bien comprendre ça, parce que parfois j'entends des réflexions comme si Dieu était sadique finalement. Dieu là-haut, il nous envoie telle ou telle épreuve. Vous voyez, un peu comme un chat qui joue avec une souris. Non, Dieu n'est pas sadique. Dieu ne s'amuse pas avec nous. Je dirais même, il souffre avec nous quand nous souffrons. Mais il nous permet de transformer nos épreuves en offrandes. Et là, ça change tout. Il nous permet de passer du murmure, vous savez, comme les Hébreux au désert qui râlent tout le temps, ou de la colère qu'on peut avoir contre Dieu, ou du rejet de Dieu. Combien de fois je vois des gens qui me disent... « Ah ben moi, depuis le décès de ma grand-mère, c'est fini. Je ne vais plus à la messe, je ne crois plus. » Ce qui est absurde. Mais Jésus nous permet de passer de cette attitude-là à l'offrande. À l'offrande. Ben, « Seigneur, je ne comprends pas bien ce qui me passe là. Je ne comprends pas bien pourquoi tu permets ça, mais j'ai confiance en toi. Je sais que tu ne m'abandonnes pas et je fais tout ça, je te l'offre. » Alors, vous voyez, pendant la messe, à la messe, avant la prière eucharistique, il y a la procession des offrandes. Et il y a la quête en même temps. C'est pas pour rien. Hein. La quête, c'est pas simplement notre participation à l'Église, par la quête, par le denier de l'Église. Ça, j'allais dire, c'est normal. Mais ça a une dimension spirituelle. En fait, on se prépare à entrer dans le mystère de l'offrande. On apporte le pain, le vin, mais en fait, on dépose devant l'autel tout ce que nous sommes, nos joies, nos peines, nos projets et nos épreuves. On apporte tout ça à Jésus. Et Jésus prend ça dans son sacrifice. Vous savez qu'à chaque messe, le sacrifice du Christ est rendu présent. À chaque messe, nous offrons au Père le sacrifice qui nous sauve par les mains du prêtre. Et quand le prêtre élève la coupe et la patène, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant. Ça, c'est le sommet de l'Eucharistie, c'est un moment très important, il ne faut pas dormir à ce moment-là. Et nous, comme on dit, on se met sur la patène, ça veut dire que toutes nos épreuves, petites ou grandes, on confie ça, on associe ça à l'offrande du Christ. et ça porte du fruit. Ça porte du fruit pour nous-mêmes, pour les autres. Entre parenthèses, lorsque nous faisons dire une messe pour quelqu'un, une intention de messe, que ce soit pour un vivant ou pour un défunt, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à une personne. Pour nous-mêmes, pour les autres, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Alors voilà, frères et sœurs, en conclusion, je dirais deux choses. Premièrement, il nous faut apprendre à voir l'œuvre de Dieu dans nos vies. C'est très important, apprendre à voir comment Dieu est présent et agissant dans nos vies. Sinon, on ne peut pas rendre grâce et sinon, on ne peut pas évangéliser. On ne peut pas dire « voilà ce que Dieu a fait pour moi ». Et la deuxième chose, c'est que nous sommes invités, ayant conscience de ce qu'il fait dans nos vies, nous sommes invités à nous approcher de Jésus, à le louer, à le glorifier, à lui rendre grâce. Et rendre grâce, ça veut dire quoi ? Ça veut dire « je lui rends ce qu'il m'a donné ». Et donc, je dis « Seigneur, entre tes mains, voici ma vie ». Amen.